Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
C'est un message vidéo en anglais adressé directement hier aux Libanais. Benyamin Netanyahou les appelle à s'affranchir du Hezbollah sous peine de représailles.
Libérez votre pays du Hezbollah. Vous avez l'opportunité de sauver le Liban avant qu'il ne sombre dans une longue guerre qui provoquera des destructions et des souffrances comme celles que nous voyons à Gaza.
Les bombardements contre le Hezbollah plongent déjà le Liban dans le chaos depuis 2 semaines. 1 million de déplacés fuient les frappes israéliennes. Fragilisée, la milice chiite pro-iranienne menace d'intensifier ses tirs sur l'État hébreu tout en ouvrant la porte à des négociations.
Nous soutenons les efforts politiques menés par le président du Parlement libanais, Nabi Berri, qui vise en priorité à un cessez-le-feu.
Un cessez-le-feu au Liban peut-il se concrétiser? Même interrogation pour Gaza, où le Hamas promet une guerre longue contre Israël. Depuis des mois, des propositions d'accord sont soumises aux belligérants. Pour l'ONU, il est plus que temps qu'elles aboutissent.
Le conflit au Moyen-Orient s'aggrave d'heure en heure. C'est pourquoi nous n'abandonnerons pas nos appels à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et au Liban.
Mais que faire lorsque la pression diplomatique ne donne rien? Emmanuel Macron a appelé le week-end dernier à cesser de livrer à Israël des armes pour mener des combats sur Gaza. Cette déclaration, qui a ulcéré Benyamin Netanyahou, visait en premier lieu les États-Unis.
Si on appelle à un cessez-le-feu, la cohérence, c'est de ne pas fournir les armes de la guerre. Et je pense que ceux qui la fournissent ne peuvent pas chaque jour appeler à nos côtés au cessez-le-feu et continuer de les approvisionner.
Alors, face à une diplomatie impuissante, faut-il décréter un embargo sur les livraisons d'armes? Où en sont les négociations menées en coulisses, notamment par le Qatar? Comment arracher un cessez-le-feu au Proche-Orient?
Nos 3 invités pour ce débat, Michel Taubman, bonsoir, écrivain et éditeur franco-israélien. Vous êtes éditorialiste à la télévision internationale israélienne I24 News et membre du comité de rédaction de la revue Politique Internationale. Selon vous, la déclaration d'Emmanuel Macron sur les livraisons d'armes en vue d'un cessez-le-feu, livraison d'armes à Israël, n'est pas idiote, mais elle est plus que maladroite, selon vous. Ça peut faire plaisir à une partie de l'opinion publique française, mais c'est incompréhensible en Israël. À côté de vous, Sophia Amara, bonsoir madame, grand reporter spécialiste du Proche-Orient. Votre dernier documentaire, Hamas, la fabrique d'un monstre, diffusé en janvier dernier sur Arte, est toujours disponible sur arte.tv, et tant mieux. Selon vous, au lieu de faire des déclarations tonitruantes, la France ferait mieux d'essayer de peser diplomatiquement auprès des Américains. Malheureusement, la diplomatie aujourd'hui est synonyme d'immobilisme. Et Gérard Araud, ancien ambassadeur de France en Israël et aux États-Unis, votre ouvrage Israël, le piège de l'histoire, est paru chez Taillandier. Monsieur l'ambassadeur, donc selon vous, le seul pays qui peut avoir une influence et amener à un cessez-le-feu, ce sont les États-Unis. Mais l'élection présidentielle qui a lieu dans un mois, un tout petit peu moins d'un mois, bloque tout. On ne sait pas où les Israéliens vont s'arrêter. Et on démarre avec la déclaration du jour, elle est française.
Signée de notre nouveau ministre des Affaires étrangères en réponse à Benyamin Netanyahou qui a menacé donc le Liban d'être, je cite, un nouveau Gaza. Si cette provocation était suivie d'effet, cela entraînerait le Liban, pays ami de la France, dans le chaos. Voilà ce qu'a dit Jean-Noël Barrot. Gérard Araud, Netanyahou et Macron se sont parlé, mais ça reste très tendu entre Paris et Tel Aviv aujourd'hui.
Oui, c'est très tendu, et je pense, comme d'ailleurs que la citation que vous faisiez, c'est que l'annonce du président de la République d'un éventuel embargo sur les armes, ça fait quand même du sens, ça a du sens dans sa substance. Les Israéliens sont entraînés dans une opération militaire dont nous ne voyons pas la fin, dont nous ne voyons pas d'ailleurs non plus les objectifs. Cette opération militaire s'étend au Liban, qui est un pays ami. Il serait logique que la France ne livre plus d'armes à Israël. Cela étant, et je suis d'accord aussi, la manière dont elle a été présentée a été d'abord de mauvais goût. On ne dit pas ça 2 jours de l'anniversaire du 7 octobre. Mmh. Et deuxièmement, a été, je dirais, maladroite.
Ça a été mal ressenti, donc Michel Taubman. Je rappelle la phrase d'Emmanuel Macron. Hein, si on appelle à un cessez-le-feu, la cohérence, c'est de ne pas fournir les armes de guerre. Voilà ce qu'a dit le président français. Ça a été mal ressenti.
Ben écoutez, ce qu'il a dit le président français.
Par les Israéliens aussi.
Ben, oui, alors ce qu'a dit le président français, c'est ce que veulent les Américains, c'est ce que veut le Royaume-Uni, c'est ce que veulent les amis d'Israël et pas les ennemis d'Israël. Hein, et c'est ce que veulent une grande partie des Israéliens qui veulent un cessez-le-feu pour la libération des otages. Et le problème, et c'est toute la complexité, et moi personnellement je suis partagé, c'est-à-dire que ici En tant qu'éditorialiste, analyse, je suis plutôt d'accord avec Gérard Haro, mais quand je suis en Israël ou quand je téléphone à mes amis israéliens, là, j'ai plutôt, je veux dire, affectivement, je suis plutôt évidemment de ce côté-là. Et le sentiment des Israéliens et des Juifs de France aussi, c'est que la France a lâché Israël. Alors que ce n'est pas vrai. Mais la stratégie.
Vous avez
de la France...
été choqué personnellement ?
Non, je n'ai pas été choqué personnellement parce que je ne suis pas simplement un citoyen. C'est vrai, j'essaye de réfléchir. Mais je me suis dit, c'est maladroit. Et ce qu'on
le
attend
timing,
de la France...
le moment.
Ah, oui,
le
oui. Moment. Mais ce qu'on attend de la France, c'est, et de la France et des Européens, c'est de proposer une perspective diplomatique. Alors, moi, je discute avec des amis, souvent de gauche d'ailleurs, qui sont pour faire des sanctions. Moi, je n'ai jamais été pour les sanctions contre Israël. Mais si on propose quelque chose, si on a une perspective de paix, à ce moment-là, on peut peut-être imposer des conditions pour faire... pour arriver à cette perspective. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, depuis un an, un forum, quelque part, en Europe, à Paris, comme pendant la guerre du Vietnam, où on réunit ceux qui veulent venir discuter. Et il y en a. Et il y en a parmi les Israéliens, il y en a parmi les Palestiniens, et qu'on offre une perspective de paix pour l'ensemble de la région.
On va en parler, mais Sophie Amara, qu'est-ce que vous pensez ? Vous avez été choquée aussi ou...
Alors, oui, j'ai été choquée pour d'autres raisons. Oui. Certes, elle intervient 48 heures avant...
La déclaration d'Emmanuel Macron, samedi dernier.
Tout à fait, elle intervient presque deux jours avant le 7 octobre, et donc c'était vraiment pas le moment. Moi, je trouve qu'elle arrive très en retard, et que Monsieur le Président est en retard d'une guerre, puisqu'on est déjà à quelques 50 000 morts. Premièrement. Deuxièmement, puisqu'il parle de cohérence, soyons cohérents jusqu'au bout, et il aurait dû clairement dire que ce n'est pas la France qui livre des armes à Israël, déjà. Ça n'est pas la France, ce sont les États-Unis. Il aurait fallu mettre le doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire, nous appelons nos partenaires ou nos amis, ou appelez-les comme vous voulez, les États-Unis, à cesser la livraison d'armes. Deuxième incohérence. La troisième incohérence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, certes, la France soutient Israël avec des pièces détachées, des roquettes, etc. Mais la troisième incohérence, c'est... Comment savoir quelles sont les armes parmi les armes que reçoit Israël, celles qui vont frapper Gaza et celles qui vont combattre le terrorisme pour reprendre les objectifs annoncés par Netanyahou? Donc ça fait beaucoup d'incohérences dans une seule phrase quand on sait que derrière cette phrase, il y a beaucoup de morts et beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir.
Alors, Anna, qui livre quoi à qui sur ces livraisons d'armes?
Alors, vous avez commencé à en parler, mais plusieurs pays occidentaux livrent des armes à Israël. Il y a les États-Unis, bien sûr, c'est le premier soutien militaire depuis la création de l'État hébreu, mais il y a aussi l'Allemagne qui a vendu en 2023 pour plus de 300 millions d'euros d'armes, des équipements anti-chars, des munitions, des véhicules terrestres et des drones de combat. La France aussi est concernée par des livraisons. Depuis 2013, elle a exporté des bombes, des roquettes, des missiles, mais uniquement pour un usage défensif, selon Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Le Royaume-Uni, lui, exporte essentiellement depuis 2016 des composants pour les F-35, donc les avions de chasse américains, par le biais de ventes de licences d'armes. Et quant au Canada, l'Espagne et les Pays-Bas, eh bien, eux ont arrêté leur livraison ces derniers mois. Maintenant, du côté du Hamas, leurs armes proviennent d'Iran, de Corée du Nord, de Syrie, de Libye et même de Chine. Et le Hezbollah, lui, doit tout son arsenal militaire, essentiellement à son principal allié, l'Iran. Gérard Haro, est-ce qu'on peut demander aux pays occidentaux d'arrêter de livrer des armes à Israël alors que de l'autre côté, l'Iran fournit des armes au Hezbollah et au Hamas?
Non, mais vous savez, l'embargo sur les armes, en réalité, la question, ce n'est pas les armes. C'est le geste politique, c'est l'avertissement envoyé en Israël sur le thème « Nous ne pouvons plus vous soutenir dans l'entreprise dans laquelle vous êtes engagé ». Et donc, un des problèmes de la déclaration du président de la République, justement, c'est qu'elle a été française, franco-française, alors que vous avez plusieurs pays européens, notamment le Royaume-Uni, l'Espagne, qui se posent les mêmes questions et qui d'ailleurs ont déjà pris des mesures avant nous. Et donc je pense que, pour aller dans le même sens de ce qui a été dit, d'abord il aurait fallu faire plutôt une déclaration européenne et que cette déclaration européenne s'accompagne d'une initiative politique. Parce que sinon c'est un fusil à un coup. Vraiment, vous pensez bien que les Israéliens ne vont pas arrêter parce qu'on leur dit on vous livre plus d'armes. Il aurait fallu qu'il y ait une initiative européenne pour dire voilà, et éventuellement d'ailleurs en coopération avec les monarchies du Golfe.
Et Sophie Amara, par exemple, est-ce qu'on peut contraindre des pays par le droit peut-être à arrêter de livrer des armes à Israël. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être envisageable?
Non, absolument pas. Et puis, de toute façon, les armes font partie de ces produits qui, grâce à des trafics, de toute manière, parviennent jusqu'aux États. Alors, des États voyous, des États occidentaux, des États comme Israël, qui sont bien dans une situation compliquée, parce qu'il y a occupation. Et donc, malgré tout, mais ça, elle reste l'allié, cet État reste l'allié des Occidentaux.
Mais on ne peut pas empêcher l'Iran, par contre, de livrer des armes
non plus. Donc, la solution, elle ne peut être que politique. Ça, je veux dire, c'est clair.
Mais alors, si elle peut être politique, Michel Thomas, vous disiez tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait une grande, enfin, un grand fond pour la paix. Gérard Rajou, vous le disiez exactement. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que personne n'est en capacité aujourd'hui de l'imposer. C'est ça la vérité, c'est que personne n'a la voix suffisante pour dire, voilà, aujourd'hui j'appelle à une conférence de paix internationale.
Écoutez, si la réponse était facile, je pense que d'autres
cette conférence aurait déjà existé.
Mais je pense que ce qu'il faut rappeler ici, puisque nous sommes sur un plateau de télé à Paris, c'est que la guerre, c'est d'abord des gens qui souffrent, c'est d'abord des choses atroces, c'est d'abord des gens que nous connaissons les uns et les autres, à Tel Aviv, qui sont dans l'angoisse parce qu'ils ont des otages encore depuis un an à Gaza, dont ils n'ont pas de nouvelles et qui sont probablement morts, à des gens à Haïfa qui reçoivent des roquettes du Hezbollah, des Libanais qui sont tués, qui fuient sur les routes, des centaines de milliers de Libanais qui fuient sur les routes, des gens hostiles au Hezbollah.
Et des civils palestiniens.
Et des civils palestiniens
sont les victimes
qui sont hostiles au Hamas. Et puis même s'ils n'étaient pas hostiles au Hamas, ce sont des gens désarmés qui sont aujourd'hui dans des situations. Alors une fois qu'on a dit ça, attendez, ce que je voudrais dire pour répondre à votre question, c'est que aujourd'hui, on est dans une situation. Oui. Quand on dit qu'il faut en sortir par le haut, oui. On s'aperçoit que la question du Proche-Orient, ce n'est pas simplement le conflit israélo-palestinien, c'est la question libanaise, c'est la question
de
la République islamique d'Iran. Oui. C'est toutes ces questions-là, et peut-être que quand on a touché le fond, on peut rebondir, et en tout cas, il faut essayer de proposer une solution globale. Mais en tout cas, par exemple...
En même temps, on entend dire que les deux parties, Israël et Hamas, n'ont pas intérêt aujourd'hui à cesser cette guerre.
D'abord, je dois avouer... En toute amitié, que la solution globale, j'en ai jamais vu dans l'histoire de la diplomatie, hein, surtout au Moyen-Orient, tout le monde se tient par la barbichette, donc moi j'y crois pas à la solution globale, je crois que la seule solution, ça pourrait être un cessez-le-feu, essayer d'aboutir éventuellement à un cessez-le-feu.
Alors les deux parties demain ou pas ?
Les seuls qui peuvent avoir de l'influence, comme je l'ai dit, ce sont les États-Unis.
Les Américains.
Les Européens n'ont pas la moindre... le quart d'une influence dans la région. Or, les États-Unis aujourd'hui sont paralysés par leur campagne électorale. Ce qui veut dire que Benjamin Netanyahou peut continuer à faire ce qu'il veut. Et il fera ce qu'il veut. Et je pense même que Joe Biden craint qu'à un moment, Netanyahou ne le poignarde dans le dos. Parce qu'évidemment, le candidat de Netanyahou, c'est Trump. Et qu'à un moment, Netanyahou, malgré tout ce que les États-Unis ont fait pour eux, disent « Ah, mais on ne m'a pas soutenu face au terrorisme islamique. » Donc, s'il y a solution, elle vient soit de l'intérieur d'Israël, parce que les Israéliens manifestent, soit elle vient aussi du côté de l'Iran. Mais les acteurs extérieurs, je ne vois pas comment ils pourraient avoir une influence.
Alors, parliez des États-Unis, juste pendant un instant, juste, on va écouter Kamala Harris, parce qu'on a l'impression que la vice-présidente des États-Unis, qui est candidate à l'élection présidentielle, on le rappelle, marche sur des œufs quand elle parle de cette situation et qu'elle est interrogée sur ce qui se passe au Proche-Orient. Écoutez.
Does the U.S. have no sway over Prime Minister Netanyahu?
The work that we do diplomatically with the leadership of Israel is an ongoing pursuit around making clear our principles.
But it seems that Prime Minister Netanyahu is not listening.
We are not going to stop pursuing what is necessary for the United States to be clear about where we stand on the need for this war to end.
Sophia Mara, que d'éléments de langage, hein, et ça dit beaucoup de l'ambiguïté des Américains aujourd'hui, qui semblent impuissants. C'est ça la réalité?
C'est une impuissance choisie.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'ils ont décidé d'être impuissants. Aujourd'hui, si
c'est pas
Israël...
C'est pas la situation politique actuelle, l'élection présidentielle qui se présente?
Mais jamais. Quand est-ce que les États-Unis, depuis 1948, ont pris une décision, ont voté une résolution au Conseil de sécurité, ou se sont abstenus d'opposer un veto aux résolutions qui condamnaient la politique israélienne? Quand est-ce qu'ils l'ont fait? Une fois, quand ils ont eu un intérêt suprême, c'était en 1990, parce qu'il fallait demander aux pays arabes de s'allier à eux pour frapper Saddam Hussein et libérer le Koweït et le pétrole du Koweïtien. C'était la seule fois. La conférence de Madrid est partie de là. Il y a eu les accords de paix qui demandaient la terre contre la paix. Et les Israéliens ont voulu la paix sans donner la terre. Voilà le résultat.
Michel Thomas, vous voulez réagir ?
Malgré toute ma sympathie pour vous, et toute ma sympathie et ma compassion pour les Libanais qui sont injustement victimes de cette guerre, pour les Gazaouis qui sont injustement victimes de cette guerre, le problème du Proche-Orient ne peut pas être réduit uniquement à Netanyahou. Et Dieu sait que Netanyahou a de très graves responsabilités. Il y a aussi la République islamique d'Iran. C'est-à-dire que s'il y a deux facteurs de déstabilisation dans la région, c'est le conflit israélo-palestinien, et c'est la République islamique d'Iran, avec ses proxys, avec le Hezbollah. Et donc, aujourd'hui, je pense, et là-dessus, je crois qu'on sera d'accord, il faut arrêter les dégâts, ça, il faut cesser le feu. Et ensuite, on verra. Mais il faut un cessez-le-feu, il faut la libération des otages, mais il faut aussi qu'au Liban, l'armée libanaise, qu'il n'y ait qu'une seule armée, une seule police, un seul État, que le Liban devienne un État souverain. Et donc, toutes ces questions-là, peut-être que sur le Liban, la France peut jouer un rôle. Mais pour revenir aux États-Unis, Gérard Haro a raison de dire qu'il y a une campagne électorale, mais la campagne s'arrête le 5 novembre.
Oui,
et si Harris est élu, Biden est président pendant 2 mois et demi. Et peut-être que Biden aura alors les coups des franges, parce que Biden, il n'en peut plus de Netanyahou.
Et que il y a quand même deux plans de cessez-le-feu sur la table. Il y en a un pour Gaza, il y en a un pour le Liban. Et même le Hezbollah se dit prêt à soutenir les efforts du gouvernement libanais en vue d'un cessez-le-feu. Est-ce qu'on y croit ou ce sont des gesticulations ?
Enfin, je ne sais pas si vous pouvez appeler gesticulation ou pas. De nouveau, moi, c'est une opération militaire, l'opération militaire israélienne. Je n'en vois pas la fin.
De laquelle parlez-vous ? À Gaza ou au Liban ?
Dans les deux. Les deux. Parce qu'elles répondent à la même logique. Hein. Elles répondent à la même logique. Parce qu'une opération militaire, on m'a toujours dit, il faut connaître l'état final recherché. L'état final recherché, je suis désolé, à Gaza, ils ont rasé 70% de Gaza et le Hamas est toujours là. Donc
un cessez-le-feu, pour vous, ça sera une victoire militaire,
et si au Liban, bien. Et au Liban, oui, ils veulent chercher une victoire militaire où on ne peut pas avoir de victoire militaire. Parce qu'au Liban, ils peuvent tuer tous les dirigeants du Hezbollah qu'ils veulent, le Hezbollah sera toujours là. Et il se reconstituera.
Vous voulez dire politiquement, si ce n'est militairement, et vice-versa.
Et militairement aussi. Bon, il se reconstituera de toute façon. Et l'État libanais, et tout le monde le sait, l'État libanais est un État failli qui sera incapable de mettre la main, désarmer le Hezbollah. Donc, on voit une sorte de situation de course en avant. Alors, peut-être qu'à un moment, Israël dira « ça y est, j'ai gagné, j'arrête ». Mais ça voudra dire quoi ? Ça voudra dire que dans 5 ans, d'abord, on reconstruira Gaza, et dans 5 ans, ça recommencera.
Sophia Amara, quand on a vu le cheikh Kassem dire que le Hezbollah pouvait s'engager dans une tentative de cesser le feu, ça peut vraiment être pris au sérieux ?
Oui,
alors. Quelle démarche
j'y réponds.
Et qu'est-ce qui motive ça ?
Alors, justement.
Le sentiment de l'autofragilité.
Pour revenir à l'Iran, justement, dont la stratégie est en train de s'effondrer et qui n'est que secondaire dans le conflit et qui, justement, surfe sur le problème israélo-palestinien. S'il n'existait pas, l'Iran n'aurait pas cette rhétorique. Et de toute façon, l'Iran a un objectif principal, c'est sa survie. Le reste, ce n'est que son fonds de commerce. Donc, premièrement. Deuxièmement,
concernant
le cheikh Naïm Kassem, que j'ai moi-même interviewé dans le cadre d'une série d'hommes sur le Hezbollah, et ce n'était pas la première fois, donc j'ai eu affaire à ce personnage plusieurs fois. C'est assez intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si le Hezbollah tient en otage le Liban, s'il est responsable du calvaire des Libanais aujourd'hui, dans le même temps, il a toujours refusé jusqu'ici, ça fait le 8 octobre de l'année dernière, les affrontements ont commencé entre les deux parties, au nom de l'unité des fronts avec Gaza. Aujourd'hui, un an après, le Hezbollah, pour la première fois...
Les deux parties libanais ou, partie?
Non, entre les deux parties, c'est-à-dire Israël et le Liban, ou en tout cas Israël et le Hezbollah. Aujourd'hui, le Hezbollah accepte pour la première fois qu'on dissocie le front de Gaza avec le front libanais. Jusqu'ici, le Hezbollah refusait le principe du cessez-le-feu tant qu'il ne cessait pas à Gaza. Aujourd'hui, preuve qu'il est très affaibli. Voilà. Mais on ne peut pas non plus se dire oui, l'État libanais va... Il n'y a pas d'État libanais. L'État libanais a implosé. Il n'y a pas. Il y a le Hezbollah qui tient militairement le pays et politiquement. Et on ne peut pas se débarrasser du Hezbollah sans le faire ça graduellement entre les Libanais. Sinon, ce que demande Netanyahu en disant « Vous allez vous débarrasser du Hezbollah. » Ah bon, vous arrivez à vous débarrasser du Hezbollah ? Vous n'y arrivez pas. Pourquoi le Hezbollah est né ? C'est pas parce que vous avez envahi le Liban en 82 et vous demandez aujourd'hui aux Libanais qui sont à genoux
à genoux de venir finir le travail, de s'entretuer entre eux pour se débarrasser du Hezbollah qui est né à cause d'une occupation israélienne.
Réaction, Michel Thomas.
On peut se mettre d'accord.
C'est quand même assez arrogant et dangereux.
Là où nous pouvons nous mettre d'accord, je pense, c'est qu'effectivement, il était légitime qu'Israël réponde à l'attaque du 7 octobre et il était légitime qu'Israël réponde aux attaques du Hezbollah. 70 000 Israéliens ne pouvaient plus vivre chez eux. Maintenant, la question est de savoir où on s'arrête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la guerre sans fin et une guerre sans limite. Et les objectifs de Netanyahou, de dire on va éradiquer le Hamas ou on va éradiquer le Hezbollah, non, parce qu'on voit d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu... Là, il y a des morts civiles en Israël à cause du Hezbollah. Et le Hezbollah va repousser autrement. Et ce n'est pas parce qu'on détruit la tête que l'organisation...
Justement, puisqu'on parle de cette fragilisation...
Donc, il faut maintenant fixer les objectifs intermédiaires.
Alors, les objectifs, est-ce qu'ils peuvent être fixés, Gérard Roux, par les pays arabes, l'Arabie saoudite, le Qatar? Est-ce que l'Égypte, ces pays-là peuvent pousser le Hamas et le Hezbollah à négocier séparément, visiblement, d'après ce que nous dit Sophia Marat, avec Israël? Est-ce qu'ils peuvent avoir un impact, une influence aujourd'hui?
Alors d'abord, vous avez vu que les pays arabes ont fait une déclaration disant qu'ils étaient prêts à négocier une paix avec Israël, à donner des garanties de sécurité à Israël. Mais quelle est la réalité quand même du monde arabe, pour compliquer les choses? D'abord, les trois principaux pays arabes sont hors-jeu. L'Irak, grâce à nos amis américains, la Syrie parce qu'elle est en guerre civile et l'Égypte parce qu'elle dérive dans une crise politique, économique et sociale sans fin. Il ne reste plus que les monarchies du Golfe. Les monarchies du Golfe, ça ne les gêne pas du tout qu'on éradique le Hezbollah et le Hamas. Au contraire, elles espèrent qu'Israël le fera. Et ce n'est pas la brutalité israélienne qui pose un problème à nos amis séoudiens. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie parce que les monarchies du Golfe, elles veulent la stabilité. Elles ont un problème de leur opinion publique qui est très pro-palestinienne et anti-israélienne, mais elles-mêmes, ce sont des alliés de fait de Netanyahou.
Alors, on est tellement loin dans la guerre que finalement, le cessez-le-feu est possible. Paradoxalement, c'est en tout cas l'avis. Écoutez de Dominique de Villepin, l'ancien ministre des Affaires étrangères français.
Aujourd'hui, à Gaza, il n'y a plus rien à détruire. Aujourd'hui, le cessez-le-feu est possible. Car voyez-vous, quand on veut régler un conflit, on peut, bien sûr, dans un premier temps, utiliser la force, avec mesure, avec proportion. Mais on ne peut pas aboutir et aller vers la paix sans utiliser la politique et la diplomatie.
Sophia Marat, en même temps, la diplomatie c'est important, mais ce n'est pas non plus une question d'hommes. C'est ce que vous dites, vous dites finalement Netanyahou ou pas Netanyahou. Il y a eu des hommes de droite, par exemple Sharon, qui ont fait la paix. Donc on peut garder les mêmes, et puis avoir de la diplomatie encore aujourd'hui, malgré ce qu'on dit.
Bien sûr, on ne fait pas la guerre sans penser à la diplomatie, sans penser à la paix. Et à droite comme à gauche, pour moi c'est la même chose. Ariel Sharon s'est retiré de la bande de Gaza, et vous avez eu des dirigeants israéliens de gauche qui ont fait des guerres sanguinaires.
Donc vous pensez que Netanyahou, il pense quand même un peu dans un coin
de sa tête ? Que lui, il est hors norme de toute manière. Il est hors norme.
Et Michel Thomas, vous pensez aussi, on peut garder les hommes et arriver à une résolution diplomatique.
La guerre, c'est la politique par d'autres moyens. Il faut espérer que la politique prenne le relais de la guerre. Et effectivement, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la société civile israélienne qui, avant le 7 octobre, était vent debout et très majoritairement contre Netanyahou et qui a encore manifesté, des dizaines de milliers de gens ont manifesté
il y a encore quelques semaines. Mais qui le soutient aujourd'hui, là, en ce moment.
Bien sûr, mais vous savez, quand un pays est en guerre, c'est comme en 1914, trois jours avant la guerre, Jaurès appelait à la grève générale, l'international socialiste dans tous les pays appelait à la grève générale, et quand le canon tonne, quand le clairon sonne, quand le drapeau est levé, les gens sont tous derrière leurs dirigeants. Donc là, en Israël en tout cas, si je pense que la clé, c'est à un moment donné un cessez-le-feu, et quand le cessez-le-feu arrivera, eh bien là, pourra discuter politique.
Très bien.
On pourra parler de l'avenir. On parlera d'autres choses.
Très bien.
Et quand en Iran, il y a aussi une société civile qui est opposée au régime islamique.
On en reparlera le moment venu. Merci à tous les trois pour ce débat constructif qui nous a fait remonter à 1914. Merci infiniment.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.